Hop, hop, bonjour, bonjour, ici c'est Valérie Demont. Je vous prends 2 minutes avant l'écoute de votre podcast pour vous parler du workshop Leadership Conscient. Il s'agit d'une journée pour acquérir ses propres outils et repartir avec dans une série d'expériences que vous allez faire. Donc je vous propose de vivre une dizaine d'outils du leader conscient, dont certains sont des fondamentaux du leadership conscient, comme la gouvernance intérieure. Et puis d'autres sont des atouts comme la relation au temps, l'activation de toutes nos intelligences, dont l'intelligence du cœur. Sur mon site, il y a la liste complète de ces outils. Vous vivrez les outils dans votre corps, votre cœur et votre cerveau, tels que 2 outils pour la gouvernance intérieure, 2 outils qui permettent d'obtenir des angles de vue différents et des changements de perspective, 2 outils pour de la bascule mentale. On va expérimenter de la pleine présence et conscience, rythme, temporalité et temps créatif aussi. C'est très, très important, en fait, cette notion du temps en ce moment. Les outils subtils, dont l'intuition et l'intelligence du cœur. Là, on en aura 3. Et puis, la capacité à faire des liens entre les différents univers. Et puis là, ce sera 2 outils qui seront expérimentés. Vous repartez avec les protocoles de ces exercices et ceux que vous choisissez de pratiquer et intégrer dans votre vie. On se retrouve ensuite un mois après pour débriefer, échanger avec les autres participants, s'enrichir des expériences de chacun pour voir en fait comment ces outils se sont posés dans votre quotidien et puis je vous donnerai du feedback s'il y a besoin d'amélioration. Si vous avez envie d'intégrer du cœur et le cœur dans votre entreprise, je vous invite à consulter le programme détaillé du workshop et vous inscrire et profiter aussi du Early Bird. Vous trouvez tout ça sur mon site valeriedemont.ch, l'onglet Leader et puis Workshop. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et en attendant, je vous laisse à votre épisode et je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite.
C'est ça qui est intéressant, c'est que on a qu'une certitude sur le futur, ouais. C'est qu'il sera différent du présent et du passé. Évidemment, il reste à construire. Hein. Au-delà de 10 ans, c'est notre imagination.
Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Bonjour Giorgio.
Bonjour.
Merci beaucoup de me recevoir sur votre lieu professionnel pour cette interview.
C'est un plaisir, merci.
On va peut-être commencer par poser le cadre. Donc, si vous pouvez raconter qui vous êtes aujourd'hui, comment vous êtes arrivé à être cette personne.
Ok, alors mon nom c'est Giorgio Paoletto. Mon rôle ici à SIG, c'est imaginer les futurs possibles, piloter la stratégie et stimuler l'innovation. Donc je suis directeur stratégie et innovation à SIG. Et mon parcours, si on veut faire un peu l'histoire chronologique, hein, c'est 10 ans de recherche dans le monde académique avec une thèse en économétrie et statistique et puis après des études encore de recherche là-dedans avec une visite aux États-Unis, à Stanford et à Yale pour perfectionner ça. Donc j'ai un peu creusé cette histoire. 10 ans ensuite comme conseiller en technologie numérique et innovation à l'État de Genève. Et puis, depuis 2015 à SIG, où je m'occupe justement de stratégie, d'innovation, et puis vraiment, voilà, ces domaines d'intérêt qui, dont on va probablement parler, c'est vraiment cette idée de durabilité, de transformation, que ce soit personnelle ou des organisations, et puis aussi un intérêt personnel qui a rejoint maintenant aussi des intérêts presque professionnels, qui est celui de la méditation. Et voilà, différentes choses qui sont venues s'ajouter au parcours, qui était d'abord très scientifique, puis après j'ai désappris les choses que j'ai apprises, parce que c'est important de le faire, pour en apprendre d'autres et intégrer d'autres choses plus dans l'humain.
Donc du coup, vous avez un parcours qui était très cerveau, alors, je vais pas dire des bêtises, droite.
Oui, c'est un mythe, plus rationnel,
analytique, scientifique. Et puis au bout d'un moment, vous êtes arrivé à vous dire bon, il faut que j'utilise d'autres qualités, en fait, plus humaines. Et comment vous avez fait la transition entre les deux? Pourquoi l'un l'autre?
Ouais, c'est une très bonne question, parce que en fait, moi, effectivement, c'était ma passion, hein, d'avoir cette d'allier, si on veut, cette partie scientifique, statistique, économétrique, de modèle, pour avoir cette prévision des modèles macro humains, de voir comment est-ce que ça pouvait avoir un impact. Ouais. Et puis, ce qui me passionnait aussi, c'était l'utilisation de la technologie, des ordinateurs en particulier, du numérique, dans ce domaine-là, ce qui n'était pas vraiment à l'époque quelque chose d'aussi évident qu'aujourd'hui.
Ouais, donc c'était avant l'intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle aujourd'hui, on vient.
Alors voilà, l'intelligence artificielle avait déjà commencé dans les années 50, mais voilà, c'était l'hiver de l'intelligence artificielle, puis surtout c'était plutôt une période dans laquelle on était pétri de la conviction que en fait on pouvait modéliser de manière assez fine et assez rationnelle le comportement des groupes, des humains.
Ouais.
Et on n'était pas arrivé encore dans tout ce qui est psychologie comportementale, etc., qui a été aussi une révolution de ces 10-15 dernières années.
Ouais.
Donc, y a des choses que j'ai lues à l'époque que j'avais pas bien comprises, hein, visiblement, mais surtout je me passionnais pour la partie technique, quoi. Ce qui m'intéressait, c'était comment est-ce qu'on peut faire pour utiliser au mieux les outils numériques dans le monde des sciences humaines.
Ouais.
Et donc, cette liaison-là, il n'y avait pas vraiment encore de sociétés savantes qui s'occupaient de ça. Donc, on a monté des sociétés savantes autour de ça. Des publications, ma thèse était dans ce domaine-là, etc. Donc, ça a été un moment passionnant. J'ai adoré ça et ça reste. En revanche, effectivement, comme vous le disiez, c'est le contact avec les organisations, les êtres humains, on se rend compte qu'en fait, ça se passe pas du tout comme on imaginait, et qu'en fait, cette patte humaine est très importante. Et ce qui m'a ouvert les yeux à ça, le moment, on va dire, waouh, c'était la visite d'une agence qui est maintenant aussi très connue, qui s'appelle IDEO, qui s'occupe de design thinking, et qui était très proche de Stanford, où je suis allé. J'y suis retourné plusieurs années, plusieurs fois. Et là, c'était lors d'une visite qu'on a faite, qui était sur le campus, les gens qui s'occupaient d'ingénierie mécanique, et en même temps, cette agence qui travaillait avec des designers, avec un monde très différent, avec des façons très différentes de voir les choses, en sortant du bureau, en allant interviewer des gens, regardant in situ ce qui se passait, en s'intéressant aux problèmes qu'il y avait très concrets, et qui en même temps utilisait une partie très créative qui moi m'a toujours attiré, visiblement, que ce soit dans la recherche ou dans ce que je fais maintenant. Et du coup, moi, ça m'a ouvert les yeux par rapport à ce que je devais produire, qui était vraiment plutôt d'ordre conceptuel.
Ouais. Ouais.
Et me dire que là, il y avait un creuset de comment faire pour, si on veut, mieux produire cette créativité qui est aussi humaine et qui nous meut. Voilà, c'est ça un peu le déclencheur.
Bon, là, vous êtes responsable de l'innovation de la stratégie. Comment on innove aujourd'hui dans ce monde en rupture sur tous les plans?
c'est une excellente question aussi. C'est vrai que les tendances sont pas claires, aussi claires qu'avant. Hein. Ouais. Avant, on vivait dans des mondes où on était plus dans une continuité. Maintenant, ça fait des années que effectivement on parle de volatilité, incertitude, etc. Mais on avait vraiment cette notion qui avait été apportée déjà avec avec les prises et les crises précédentes, hein, on a bien vu que il y avait toute une série de crises qui se superposent, ou qui, où il y a même des gens qui ont utilisé le terme de permacrise.
Ouais.
C'est-à-dire cette notion de se dire, 2001-2002, éclatement de la bulle Internet, 2008-2010, effondrement des prêts hypothécaires, 2020-2021, pandémie de Covid, et j'en ai passé encore entre deux.
Oui, hein, quelques-unes entre deux, entre mais c'est pas grave.
Voilà, c'est égal, mais en tout cas, le rythme s'accélère et on est maintenant dans une espèce, est-ce qu'on se pose la question, la crise climatique, hein, bien sûr, avec cette spirale de catastrophes qui peuvent nous arriver et qui sont parfois tragiques, parfois aussi un moteur de changement. Parce que la question qu'on vient à se poser, c'est est-ce que c'est des crises à l'intérieur du système ou est-ce que c'est une crise du système? Et donc, cette notion-là, elle est très prégnante dans le monde aussi de l'innovation, en se disant, quel est le problème que je dois résoudre? À quoi je dois m'intéresser? Et donc, il y a vraiment une question plus profonde de se dire... pourquoi j'innove, hein? Quel est le but, un peu le telos, hein? Quelle est la signification globale de ça? Donc on est passé, on va dire, d'un narratif où on voyait 2007-2008, hein, je me rappelle d'avoir lu le bouquin de Nicolas Nassim Taleb qui parlait du le signe noir,
oui, hein,
vous avez peut-être entendu parler avec cette histoire assez intéressante de se dire que c'est un événement très inattendu ou complètement inattendu qui a un énorme impact qui semblait vraiment impossible jusqu'à ce moment-là, hein. L'histoire, c'est le cygne est un animal blanc avec un bec orange et puis depuis l'Antiquité on croit ça, et en 1697 il y a des explorateurs qui vont dans le New South Wales en Australie, et qu'est-ce qu'ils observent? Un cygne noir. Et là, du coup, une seule observation remet en question toute la théorie qu'il y avait avant et toute la définition. Et on est devant ces phénomènes qui nous apportent tout à coup un éclairage complètement différent. Mais il y a tout un bestiaire, et ça, les gens qui font un peu de prospective, un peu de futurologie ou de future thinking aiment bien ça. Et on voit par exemple des éléphants noirs. On voit des événements qui sont largement prédits, mais qu'on ignore complètement. On les rejette, on dit c'est improbable, ça va pas arriver, jusqu'à ce qu'ils se produisent réellement, alors qu'on les avait vraiment vus.
Alors quand vous dites on les avait vraiment vus, ça veut dire qu'on les a vus imaginés, pressentis, calculés, prédit, ou c'est de l'ordre de, je sais pas, de la médiumnité, ou...
Ah non, c'est des choses très très concrètes, hein. C'est le changement climatique, hein, prenons cet exemple-là. Je crois qu'on peut pas ignorer qu'il y avait quand même des signaux qui étaient avancés régulièrement, que ce soit par le GIEC, le rapport Meadows, etc. Donc tous ces éléments, tous ces signaux et ces rapports étaient là, ils étaient même très concrets, très scientifiques, mais simplement notre cerveau et notre système, notre modèle mental, hein, est venu à simplement les écarter parce que il y avait notre attention était et notre intention était de continuer à poursuivre une croissance et avoir un monde qui devait se développer selon ce qu'on voulait lui imposer comme modèle. Alors que finalement, on n'a pas le contrôle sur tout. Et nous, on est vraiment parti de cet écosystème-là. Et on a vraiment ignoré ce point-là.
Ouais. Quels sont les... Ouais, c'est très très juste, quoi. On n'a pas voulu voir, quoi. Quels sont les outils, vous, que vous aimez utiliser pour l'innovation? Donc, je pense le future thinking ou...
Alors ça, c'est assez récent, en fait, qu'il y a une espèce de convergence. On sent ça, c'est vraiment en ce moment, hein, plus fortement en ce moment. Il y a différents endroits où cette notion de design thinking, c'est-à-dire ces méthodologies qui sont... issus des années 60, 70 et qui ont été formalisés plutôt autour de 2000, autour de quelles sont les méthodes ou les recettes qu'on peut appliquer pour innover de manière systématique. Et donc ça, c'est quelque chose que, il n'y a pas de processus à proprement parler, hein, mais il y a des façons de faire, des moments qui sont importants. Et en fait, on a eu tout un courant qui est issu et inspiré beaucoup par le monde du design, hein, mais qui vient aussi se mélanger avec le monde de l'ingénierie, de l'architecture, etc. Et toutes ces disciplines ont en fait une partie qui est extrêmement créative et une partie qui est extrêmement rationnel, analytique.
Ouais.
Et en fait, de plus en plus, on a donné de l'importance, y compris dans l'éducation, à la partie rationnelle et scientifique.
Oui.
En laissant un petit peu de côté la partie, on va dire, plus créative, qu'on a un peu séparée, puis qu'on a mis en bas dans l'échelle des choses importantes. Hein.
Mm-hmm.
Donc voilà, les maths, la physique, les langues, c'est en
hyper
haut.
Hyper important.
Voilà, puis en bas, on a le dessin,
la
musique, le théâtre et la danse. Alors là, si vous êtes en bas, la danse, c'est vraiment le truc le plus bas.
C'est pire que tout,
c'est le machin du corps là qui sert à rien. Et en fait, on se rend compte que c'est pas du tout vrai, que ça a une importance kinesthétique hyper importante, oui, y compris pour la créativité. Donc, voilà, on est en train de retrouver des choses qui sont peut-être différentes de celles qu'on avait imaginées. Mais effectivement, pour revenir à ça, c'est comment on innove. Ben voilà, moi j'ai beaucoup été inspiré par ces approches de design.
Oui.
Là, plus récemment, j'ai lu encore des choses qui sont un peu plus intéressantes. On disait Miguel Ubuip qui a par exemple sorti un bouquin sur l'innovation comme on va dire science, et qui va un peu plus loin, qui vient qualifier vraiment des moments. C'est trois idées que Miguel Ubuip dans son dernier ouvrage sort. Je viens de le terminer et c'est un ouvrage formidable. Si vous le trouverez si vous cherchez la science de l'innovation.
Ouais.
Et donc cette idée que il doit y avoir trois moments importants. Et le premier moment, c'est un moment d'observation. Le deuxième moment clé, c'est un moment d'idéation, d'idée.
Ouais.
Et le troisième moment, c'est un moment d'objet, de réalisation. Et donc ces trois phases-là, et ensuite lui, il les clarifie, il les caractérise, hein, elles ont des particularités. Et je trouve que c'est très très intéressant. On retrouve ça dans les approches de design, mais on retrouve aussi ça typiquement dans les approches, justement, quand vous disiez de futures thinking, c'est vraiment de, voilà, on a une science, si on veut, qui parle du passé.
Oui.
C'est l'histoire, hein. Typiquement, pas seulement, mais en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on a des artefacts du passé, on a des narrations du passé, etc. Toutes ces choses-là, ensuite, on se les re-raconte dans notre société, hein. Et donc, on peut même réécrire l'histoire si on a envie, d'une certaine manière.
Ouais.
Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une discipline de ça.
Ouais.
On n'a pas de discipline sur le futur.
Et ça, c'est prospective, non?
Ouais, mais c'est pas enseigné, vous avez pas ça, vous avez
non,
pas un
non,
cours
non,
de
c'est,
ça.
C'est... Hein. Non, c'est vrai, c'est pas enseigné.
C'est très particulier.
Ouais.
C'est que un peu maintenant, quand on est dans ces crises, on se dit, tiens, est-ce que ça nous serait utile d'avoir un narratif du futur?
Ouais.
Comme on a un narratif du passé. D'ailleurs, il faut utiliser les deux en miroir, on n'est pas...
Oui. Puis d'un autre côté, c'est, enfin, d'avoir une nouvelle histoire qu'on se raconterait sur le futur, je pense que ça te donnerait de l'espoir, ça motiverait, je pense que ça serait inspirant quand même.
Ou même plusieurs histoires.
Ou plusieurs histoires, parce qu'il y a plusieurs possibles.
Eh, voilà. C'est ça qui est intéressant, c'est que on a qu'une certitude sur le futur, c'est qu'il sera différent du présent et du passé. Après, évidemment, il reste à construire. Hein, et c'est notre... moi, j'aime bien dire ça parce que ça amène toujours les gens à un petit peu se heurter à ça. C'est se dire, ben, vous avez des données sur le passé, vous n'avez pas de données sur le futur. Donc, ce que vous avez uniquement sur le futur, vous avez un peu de prédiction, mais voilà, pour en avoir fait 10 ans, je vous dis que c'est pas toujours évident.
Ouais.
Et on peut s'appuyer évidemment sur des modèles, mais ce qu'on a surtout pour le futur, au-delà de 10 ans, c'est notre imagination. Et en fait, cette partie créative et cette partie imaginative qu'on a dans la création nouvelle, c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est lié également à la partie stratégie. Parce que si on développe des futurs possibles et plausibles, eh ben il faudra en tenir compte. Et j'aime bien dire que il vaut mieux regarder le présent à partir du futur que le futur à partir du présent. C'est ce qu'on fait habituellement. Ça prend un peu la tête hein, quand on dit ça, mais.
Ah, j'aime bien. J'aime
Donc beaucoup. L'idée de se dire projetons-nous et regardons aujourd'hui quelles sont les actions qu'on a et comment est-ce qu'on va peut-être se retrouver dans une position qui n'est pas celle qu'on attendait. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quelle est notre intention aujourd'hui par rapport à ça? Où mettons-nous notre attention pour pouvoir, on va dire, tirer les bords? Il vaut mieux, on n'aura jamais la carte précise au 10 000e. On se rend compte, bah voilà, avec les cygnes noirs, les éléphants noirs, les méduses noires, hein, pour ceux qui veulent encore pousser, hein, qui sont des événements, des petits événements pris un à un, qui sont pas très importants, mais qui ont des effets de feedback positifs importants. Hein, quand vous avez une nuée de méduses, vaut mieux pas y aller et ça devient très dangereux. et mais petite, chacune n'est pas très dangereuse. Donc voilà, ce genre de choses là, on peut imaginer les futurs et ensuite voir quelles sont les conséquences à l'ordre 1, à l'ordre 2, à l'ordre 3, pour pouvoir faire marcher notre imagination et ensuite revenir dans l'action, dans le concret, dans le réel. Et c'est très important de faire cet effet de retour pour se dire, voilà, qu'est-ce que j'ai comme option, comment j'agis, quel est le sens, quelle est l'éthique que je donne aussi à ce que je fais. Ben, on parlait d'innovation, hein. Je pense que c'est quelque chose où on sort aujourd'hui complètement de cette fuite en avant qu'on pouvait avoir, mais où on peut être confiant, on peut se dire que c'est un des propres des êtres humains de pouvoir avoir cette créativité qu'on met au service de quelque chose de plus grand.
Et est-ce que vous avez pu expérimenter cette observation et l'idéation en créant un cadre qui est différent en fait, qui permet aux collaborateurs de se projeter, de se placer dans un point X dans la ou T dans l'avenir. C'est comment c'était?
Oui, alors. Il y a différentes choses. Premièrement, il y a la prise de conscience, hein, la cognition de ça. Donc, c'est déjà important de se rendre compte que, voilà, on peut être dans cet état de pensée. Et souvent, on a l'impression que se dire, non, mais moi, je peux rien changer. Ou alors, non, mais je peux pas faire ça parce que moi, je m'occupe de quelque chose d'extrêmement protocolé. Oui. Je peux pas innover dans mon truc.
Ouais, c'est ça. Voilà. Ça peut pas changer.
Ça peut pas changer. Ici, c'est sûr, hein. On s'occupe d'électricité, d'éléments dangereux. Il y a des moments différents. On peut, en toute sécurité, penser le monde complètement différemment lorsqu'on est dans un espace sécurisé et sécurisant.
Ouais.
Après, ça veut pas dire que au moment où il y a effectivement la remise en tension d'une centrale, qu'on va appliquer exactement les trucs qu'on a imaginés qui sont un peu foufou.
Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention au moment où on remet en tension.
Ah, exactement. Ouais. Le moment est différent. Ouais. Très différent. On est dans un cas où il faut avoir la ceinture, les bretelles, le parachute et tout le reste.
Ouais.
Et c'est très protocolé, très consigné. En revanche, on peut avoir réfléchi de manière très créative à la façon dont on met en œuvre un certain nombre de choses. Et puis, il y a des choses très nouvelles qui peuvent sortir. Et donc, déjà, il y a cette plasticité mentale, on va dire, de se dire, tiens, je me trouve pas que dans un mode d'exploitation pure. Je peux trouver aussi des moments de créativité et d'exploration. Et on est tous fabriqués un peu par l'école, notre système de social, de plutôt valoriser, on va dire, cet aspect convergent et de bien exécuter les bonnes tâches au bon moment, etc. Ce qui est très bien, il faut le faire. Et parfois, il faut quand même avoir aussi l'autre partie qui est en miroir, hein, qui est celle de la divergence, de laisser courir notre fil de pensée, de réfléchir profondément, d'intérioriser ou d'extérioriser des choses pour pouvoir les enrichir. Et donc ça, c'est un apprentissage. Alors comment on le fait? C'était un peu la question, hein. Donc on peut le faire à travers effectivement un peu de formation, des exercices, prise de conscience et de la formation action, hein, vraiment de se mettre en mouvement pour le faire. Il y a plein de gens qui le font. Alors c'est intéressant parce que il y a plein de gens qui le font assez spontanément. Et après il suffit de relever en disant aux personnes, ah mais vous voyez là, vous rendez compte qu'en ce moment-là vous étiez en fait en train d'être dans le moment où vous étiez dans une partie d'idées clés. Vous cherchiez votre idée clé. Et là, vous aviez fait une observation clé. Et maintenant, il vous manque un objet clé peut-être à fabriquer. Ouais. Et donc, rien que de mettre un petit peu des mots sur ces différentes parties, ça permet aux gens de se libérer.
Ils le font en groupe ou seul ou accompagnés?
Ça dépend. Il y a beaucoup pour moi, c'est toujours un sport d'équipe, hein.
Ouais.
Je trouve que c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que souvent, on a l'impression que c'est dans ces histoires, on aime bien raconter l'histoire d'un génie solitaire qui va trouver le truc génial, mais quand on regarde derrière, c'est juste l'histoire qu'on veut nous faire gober. C'est souvent assez long, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin, c'est-à-dire le moment entre l'observation clé et l'idée clé peut être finalement assez rapide, mais parfois c'est plusieurs mois, voire plusieurs années.
Ouais.
Et ensuite, souvent, la réalisation, c'est-à-dire l'objet clé, le premier prototype qui est fonctionnel, qui va nous permettre de dire, oui, on va avoir un changement de société parce que c'est quelque chose qui va vraiment être impactant.
Ouais.
Bah, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans.
Ouais.
Et c'est pas que chez nous, hein, c'est quelque chose qui se documente de plus en plus. Après, un autre exercice qu'on a fait aussi récemment, toujours dans cette idée de futures thinking, c'est vraiment d'avoir vraiment ces tendances futures vues avec des signaux faibles, hein, voir quelles sont les tendances qui sont à la fois lourdes, hein, la démographie, le changement climatique, etc. Mais aussi ces petits signaux d'un peu moins évidents, hein, avec des tendances même de changement de société qui sont peut-être moins visibles. Hein. Comment est-ce que les entreprises se transforment autour de cette thématique de valeur ajoutée? Comment est-ce que les compétences sont en train de changer entre les soft et les hard skills, ou bien les compétences vertes comme un moteur vraiment fort de l'économie de demain?
La diversité des genres ou l'égalité des genres,
L'inclusion, la gestion des biens communs, qui est aussi un point important pour faire face à un phénomène d'éco-anxiété ou d'anxiété plus globale, en se disant qu'est-ce qu'on peut faire et comment on s'organise. Donc tous ces points-là, puis après il y a des éléments aussi bien sûr du monde technologique, hein, qui avance à une vitesse incroyable, et puis bien sûr qui est là avec, vous l'avez mentionné tout à l'heure, hein, intelligence artificielle, machine learning, et comment ça change notre façon de travailler ou même notre métier. Comment est-ce que les algorithmes sont en train de changer nos vies, mais aussi comment est-ce que ça amène de la régulation dans la société. Enfin, tous ces éléments-là, on les identifie, on les suit. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est de créer des scénarios futurs.
Ouais.
Donc des mondes qui sont plausibles, même s'ils sont pas forcément ni souhaitables ni souhaités.
Mais n'empêche qu'il se peut.
Ils sont plausibles dans le sens où la combinaison des différentes variables fait que il pourrait vraiment se passer. Donc on a vraiment travaillé dessus sérieusement.
Ouais,
hein, on a 10 mois de travail, hein, sur ce genre de choses. Donc en regroupant les tendances, en lisant tous les rapports, qu'ils soient ceux du GIEC, mais aussi ceux des grandes consultances, également beaucoup d'interviews d'experts ou qualitatives avec différentes personnes. On travaille aussi avec différents groupes à l'intérieur ou à l'extérieur pour pouvoir amener justement cette notion de qu'est-ce qui pourrait changer, qu'est-ce qui pourrait bifurquer. Et c'est quand on mélange ces choses, on arrive à, par exemple, à des titres de scénarios qu'on peut vous donner. C'est par exemple l'idée d'avoir un monde qui est contrasté, parce que c'est tout à coup un progrès qui continue infiniment. Donc on va trouver des solutions énergétiques peut-être avec la fusion, on va trouver une façon de faire où l'intelligence artificielle nous permet de réguler beaucoup de choses très très rapidement. On peut commercialiser des algorithmes qui sont auto-apprenants. On peut avoir peut-être des voitures qui sont tout à fait automatisées, etc., etc. Donc on peut imaginer plein de choses au niveau technique, énergétique ou social qui font que on serait dans une portion du monde qui a un progrès infini. Est-ce qu'il est souhaitable? Peut-être pas. Est-ce qu'il est plausible? Il y a quand même des choses, des gens qui sont dans cette voie, de cette veine-là.
Moi, ça me surprend pas. Hein, donc,
bien sûr.
Donc
là, on en a un deuxième qui est aussi un peu différent, qui est celui de dire où on se replie plutôt sur soi. On se dit, ce serait mieux de faire quelque chose de local, de décarboné. Alors ça a des conséquences, ça veut dire que on peut se dire par exemple, si on bannissait, on pourrait l'entendre, tout à coup, technologie chinoise, technologie américaine, interdite. Pourquoi? Trop de risques par rapport à l'importation et le contrôle d'autres. Donc qu'est-ce qui se passe si tout à coup on a une limitation ou une interdiction sur les usages de technologies comme l'intelligence artificielle pour faire, on n'a pas le droit d'utiliser tel algorithme.
Mais après, il peut y avoir tout le matériel qu'on a.
Tout le matériel qui est embarqué.
Après, on peut vraiment imaginer, du hyper local, et donc on vit pratiquement en autarcie,
Oui, mais avec des conséquences aussi. C'est-à-dire qu'on va avoir des renchérissements très forts des prix qui sont locaux. On va avoir des limitations. On va avoir probablement des crises économiques et sociales qui sont importantes. Donc un monde qu'on a appelé effectivement repli sur soi, local et décarboné, Et puis après, il peut y en avoir encore d'autres. Je vous donne juste les titres. Hein. Ambition déclarée, blocage constaté. C'est un monde où finalement les pressions des acteurs environnementaux sont fortes. Mm-hmm. On continue à faire des COP, COP 25-26. On arrive à COP 200-300. Et on déclare beaucoup. On a beaucoup de choses qui sont structurées autour de ces accords internationaux. Mm-hmm. Mais les réductions auxquelles on arrive sont toujours quand même trop faible.
Ouais.
On a des incitations qui sont données beaucoup par les gouvernements. On a aussi des soutiens qui sont toujours donnés par les gouvernements, mais au bout d'un moment, on ne sait plus comment faire. Et donc là, on a des blocages constatés au niveau des limites planétaires, mais aussi au niveau social, économique, parce que on ne sait pas comment s'en sortir.
Ouais.
Il peut toujours y avoir quand même il y a toujours de l'espoir hein, dans ces scénarios-là aussi. Hein, on peut se dire que il y a eu des colloques, que finalement on arrive à retrouver un multilatéralisme où les gens se rendent compte que c'est aussi possible de faire des choses ensemble. On va soulager les tensions sociales, on va devoir prendre ça vraiment par les cornes pour pouvoir vraiment concrètement amener quelque chose et réunir ces avis qui semblent contrastés, opposés. Et puis, il y en a un encore qui s'appelle la décarbonation assumée, où là, évidemment, on retourne. Alors, c'est un peu l'idée de changement vraiment de paradigme assez profond, hein, et qui en même temps amène aussi ses limites, c'est-à-dire qu'il va falloir réguler beaucoup plus fortement. Donc ça, c'est pas toujours évident. Il va falloir trouver des manières de coopérer entre acteurs, mais avec des tensions aussi qui sont accrues, parce que ça peut être tout à coup des limitations, des crédits carbone très forts, des prévalences de choix au niveau environnemental plutôt que économique et sociétal. Ça pose quelques questions également. Donc on a un petit peu exploré tout ça en donnant ça aussi, en donnant une forme de scénarisation. À chaque fois avec une personne qui vit en 2035 dans un de ces mondes et qui vit les péripéties d'une journée. Et donc, elle vit les péripéties d'une journée, elle prend un moyen de transport, donc on parle de mobilité, elle va rencontrer par exemple un voisin qui a des soucis sociaux. Comment est-ce qu'il s'en sort? Comment est-ce que la société est faite aujourd'hui? Il va y avoir peut-être des différences de prix sur les énergies ou sur les ressources. Comment est-ce que ça va affecter les gens?
Vous êtes vraiment dans le détail, en fait, du quotidien.
Ce qui est difficile, c'est que si on n'est pas, j'ai la liste hein, de tous les aspects, mais c'est un peu cognitivement surchargé.
Ouais.
C'est-à-dire que pour lire ça, au bout du troisième, on commence à plus avoir l'attention possible.
Ouais.
Donc on est passé par le narratif, pour avoir cette fiction, représentée par une histoire. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur véhicule que ça, pour pouvoir ensuite le dire. Puis on a essayé de faire ça aussi sous forme de dessin. Donc il y a aussi une partie un peu dessinée pour qu'on puisse montrer aux gens ce que ça veut dire la personne qui se promène en train et puis qui a son on a illustré on va dire à chaque fois donc ici par exemple le plaisir que tout simple que la personne retrouve à la fin dans le dernier scénario de se dire finalement est-ce que mon bonheur ce serait pas de boire une tasse de thé tranquillement et même s'il pleut dehors je regarde et ce moment-là pour moi il est plus important que toute la consommation que j'aurais pu avoir c'est dans ce scénario-là et puis dans un autre scénario c'est un peu différent.
C'est intéressant parce que du coup, je trouve chouette que dans vos scénarios, vous ayez intégré un moment de pleine conscience en fait.
C'est un peu moi qui pousse un peu des trucs dedans peut-être inconsciemment ou pas. Mais je pense que c'est vraiment une réflexion que les gens ont en ce moment.
Je pense
de se dire est-ce que c'est avoir ou être qui est un peu la les deux qui sont un peu les deux deux verbes qu'on a un peu peut-être confondus. On sent quand même dans tous les scénarios il y a quand même une espèce de côté justement de retrouver l'humain se ressentir connecté à la société de se sentir là par exemple celui-là c'était connecté plus à la nature mais également la satisfaction hein, même dans le premier qui est plus technologique hein, où il y a un aspect hein, plus technologique mais quand même c'est la joie de pouvoir reparamétrer le système pour rendre service à la société et on sait que peu ou prou, en tout cas cette partie-là, puisque on a ces outils aujourd'hui, ça nous permet de mieux et moins consommer demain. Alors, c'est pas la seule voie et c'est pas le seul endroit, mais ça rend la vie meilleure quand même et on prend la bonne partie de ça.
C'est déjà impossible, quoi.
Voilà.
Ouais. Merci, Giorgio. J'aime bien le être ou avoir, parce que c'est une des premières questions, en fait, que mon premier boss m'a posée. Je sais plus si on parlait de quantité de salaire, si c'était le moment qui m'augmente ou je sais plus ce qu'il y avait. Il m'a dit, mais Valérie, tu devras toujours choisir dans ta vie être ou avoir. Puis je disais, non, moi, je veux les deux.
Ah bah oui.
Et puis c'est rigolo parce que je sais pas, en tout cas, bien 20 ans plus tard, je suis toujours en train de me poser les mêmes questions. Enfin, de trouver cette balance entre les deux. Et puis moi, j'ai le être qui prend beaucoup, beaucoup plus de place, quoi. Du coup, ça m'amène à, j'aimerais revenir, en fait, quand vous êtes présenté, vous avez parlé de méditation. Je crois que du coup vous méditez et qu'est-ce que ça vous amène, comment ça vous aide dans le quotidien, par rapport à l'innovation peut-être, et par rapport à l'exploration, peut-être à d'autres mondes que ici.
Ouais. Bah écoutez, c'est vrai que ça a été un parcours plutôt personnel, hein, ouais. Au départ. Donc ça fait une dizaine d'années, j'avais fait ce cours sur qui a été mis au point. C'est un protocole de John Kabat-Zinn, hein,
oui,
qui s'appelle
ouais.
le MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, où pendant 8 semaines, on a un protocole assez précis, hein, pour pouvoir rentrer dans ces pratiques. Et finalement, ça correspondait aussi à un changement dans ma vie. Donc c'était important. À ce moment-là, je le sentais.
Ouais.
Je cherchais quelque chose de cet ordre-là. Sans que ce soit, alors je pense que pas mal de gens connaissaient, mais moi je connaissais pas du tout, donc je suis arrivé aussi là avec d'autres personnes, hein, des autres collègues, des autres amis, et voilà, je découvrais un peu ça, et puis j'y suis rentré, mais en même temps, je dirais que la première, après les 8 semaines, j'ai pas du tout croché.
Ouais.
J'ai pas du tout continué à pratiquer, c'était pas le moment, et donc j'ai retrouvé ça beaucoup plus tard, hein, plus quasiment 6 mois plus tard ou 7 mois plus tard, et j'ai commencé à un petit peu à réécouter, relire des choses et puis à repratiquer, hein, à vraiment avoir des assises un peu plus formelles, et puis j'ai rencontré aussi la possibilité d'aller dans un stage,
ouais,
où on partait en week-end, etc. Et puis voilà, avec une certaine bienveillance, j'ai commencé à développer cette partie. J'ai senti que bon, tout simplement ça me faisait du bien, donc pourquoi pas, hein, c'était une bonne proposition, je pense. Et puis ça, effectivement, c'est quelque chose qui me permet de, voilà, qui me permet de je pense que voilà, j'ai aussi des angoisses, j'ai aussi des moments où voilà, il y a des insécurités, où il y a des moments difficiles, et donc c'est pas pour ça, mais c'est un peu une préparation à ça. C'est un peu se sentir, on va dire, avoir cette conscience du moment d'une respiration de détachement pour pas mordre à l'hameçon,
ouais,
qui est celui, ouais, de se faire emporter dans cette vrille qui peut être finalement assez paniquante, hein, et donc tout ce travail, c'était une question qui m'a beaucoup plu, qui m'a attiré, et donc c'est une partie, voilà, que j'ai pu développer. Et puis au fur et à mesure, aussi ici à SIG, on commence à avoir une réflexion aussi sur le bien-être et les conditions au bien-être dans les organisations.
Ouais.
Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir suivre il y a maintenant 3 ou 4 ans une formation à CAS sur qui s'appelle Bonheur dans les organisations,
oui,
qui est donnée à la Haute École de Gestion à Genève, et où j'ai rencontré aussi beaucoup de personnes de SIG, puisque SIG est partie prenante de cette formation, mais aussi pour ramener à l'intérieur. Alors on n'y est pas encore, hein, c'est pas du tout le but de se dire oulala, tout le monde doit être heureux, on va mettre un programme du bonheur, c'est un mot qui est tellement chargé, mais plutôt quelles sont les conditions que je peux créer en moi et autour de moi, pour que y ait une attention à soi, aux autres et à la nature qui soit harmonieuse. Et c'est vraiment cette idée-là qui est en train de se de Enfin, c'est vraiment, ça a déjà été commencé il y a bien plus longtemps que ça avec le programme Équilibre, hein, ouais. On a peut-être entendu parler de ECG qui a depuis maintenant quasiment une dizaine d'années permis à ses employés et employées de travailler de manière plus dynamique, travailler aussi bien dans un tiers-lieu, à la maison, ici ou sur le siège, à d'autres endroits aussi de l'entreprise. Ouais. Et donc cette façon de faire qui va avec aussi un management, hein, qui doit être beaucoup plus agile, oui. Plus souple, ce qui est pas évident pour tout le monde d'ailleurs, mais on le reconnaît volontiers, hein. C'est pas du tout le but de dire ça brille et puis tout est beau et tout est joli, non, c'est difficile parfois.
Et on essaye, on
fait voilà, mieux. Il faut essayer, il faut continuer à le labeur. Et donc voilà, ça rejoint cette idée de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour que les personnes qui viennent travailler soient bien dans leur basket, parce que c'est aussi comme ça qu'elles sont non seulement heureuses, qu'elles font ce qu'elles aiment et qu'elles sont plus productives quelque part,
ouais.
Mais dans le sens, pas dans le sens de je te presse le citron et je te paye une heure de méditation pour pouvoir encore t'ajouter encore une tâche supplémentaire. Hein. c'est plutôt de se dire, mais voilà, est-ce que j'ai senti, par exemple, chez les autres,
ouais.
Que non, là, ça va pas, il faut pas tirer la ficelle encore un peu. Et puis, premièrement, est-ce que moi, je sens ça en moi-même et avant que ça fasse des dégâts et avant que ça soit, est-ce que j'ai fait attention à mon équilibre, mon corps, mes besoins pour pouvoir ensuite être meilleur avec les autres aussi, parce ouais. Que si j'ai pas fait attention à ça, je risque aussi d'envoyer cette partie très négative, hein, autour de moi. Et donc voilà, et je pense que ça c'est vraiment au niveau micro, mais après il y a un niveau méso de l'entreprise. Ouais. Qu'est-ce qu'on est comme organisation pour demain? Est-ce qu'on apporte pourquoi est-ce qu'on existe et est-ce qu'on apporte quelque chose de positif à la société? Et puis au niveau global, hein, au niveau voilà, est-ce que nos actions, celles de nos clients ou celles des personnes qui travaillent avec nos partenaires, etc., est-ce que on fait partie de cet écosystème qui est sur la planète? Est-ce qu'on est aligné par rapport à
ouais,
ça?
Ouais. C'est une belle démarche.
Ah ouais, on est encore en plein milieu du guet, hein, on n'est pas du tout mûr.
C'est déjà louable d'avoir commencé et puis d'être en chemin.
Voilà, c'est une intention.
Ouais.
Maintenant, le chemin, voilà, il faut que se fait pas à pas.
Fait partie de la vie, quoi. Mmh. Et puis, j'aime beaucoup, en fait, quand vous dites que, en fait, c'est à chacun aussi d'abord de commencer à se poser la question pour soi avant de l'envoyer sa mauvaise énergie, ses mauvaises ondes autour de lui, autour de soi, aux autres. Mais parce que, enfin, je trouve qu'on a toujours tendance à dire oui, mais si c'était comme ça et si c'était comme ça, ça irait mieux. Et puis dans cette entreprise et mon employeur, et nanana, au lieu de se dire ben en fait si je commence par changer moi, et ben voilà, par granularité, capillarité, ça va changer 2-3 personnes autour de moi. Et puis finalement, on va peut-être arriver à être dans un système, lentement peut-être ou plus rapidement, dans un système ou dans un lieu ou dans un écosystème en fait qui me correspond mieux. Donc peut-être d'être soi-même le changement en fait.
Ouais, c'est ça, c'est un peu la réflexion que vous avez Magandhi, hein.
Ouais,
mais
ouais.
c'est aussi tout à fait ce que dit notre directeur général, hein. Et voilà, souvent, bah, par exemple, on a revu les questions de ce qu'on appelle dialogue, c'est-à-dire un peu la partie évaluative, mais dans laquelle on s'auto-évalue aussi.
Ouais,
et
ouais.
Puis on se pose même la question, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai amené à mon manager, par exemple? Est-ce que je lui ai amené des choses positives ou est-ce que je lui remonte toujours des trucs qu'il faut résoudre, des emmerdes, etc. Hein,
ouais.
Ou est-ce que j'ai pris soin aussi vers
ouais.
le haut
ouais.
ou j'ai pris soin sur le côté.
Ouais, j'aime bien.
Et j'aime bien aussi l'idée. On avait eu Christophe André qui était venu aussi nous donner une conférence et il disait qu'il y a des entreprises, des organisations, hein, peu importe la forme, dans lesquelles il y a des bienveilleurs et des bienveilleuses. C'est-à-dire que c'est des gens. Bon, on se dit voilà, c'est quelqu'un qui a la cafétéria et qui voilà, mais il dit bonjour, il a le sourire.
Oui. Ouais.
C'est quelqu'un qui va être attentif, etc. Et puis on se rend pas compte, mais finalement c'est une source très forte. Et puis parfois dans une équipe, il suffit qu'il y ait une personne comme ça, vous l'enlevez et tout à coup il y a tout qui dysfonctionne. Mmh. Et en fait cette force. Alors ça semble un peu être peut-être galvaudé par certains. Il faut pas le faire, bien sûr. Mais lui, je trouvais qu'il était assez dans la mesure en disant il y a des personnes qui sont des bienveilleurs et des bienveilleuses et qui sont importants. Et si vous prenez pas soin de ces personnes-là, ben si le jour où elles disparaissent, vous sentirez la différence. Et c'est un peu hein, le bonheur. Se remarque au moment où il s'en va. Hein. Ouais, donc c'est aussi ça. Est-ce qu'on prête attention à ces choses?
C'est intéressant. Moi, je m'amuse en fait en ce moment. Enfin, j'ai déjà commencé il y a quelques années à sourire aux caissières quand il y avait encore des caissières. Après, il y en a encore quelques-unes, mais ou à la dame à la station essence ou au monsieur. Enfin, voilà, vraiment à sourire, à dire bonjour. Enfin, le sourire dans les yeux, dans la voix, et voilà. Et maintenant, je le fais soit quand je laisse traverser quelqu'un sur le passage piéton, soit quand je suis moi-même piétonne. Et c'est vraiment très, très intéressant ce qui se passe à ce moment-là. Et ma réaction à moi en fonction de l'autre, comment il est. Et je dois dire que je dois encore bosser sur moi parce que des fois, j'ai un peu de frustration, quoi.
Mais on est toujours, je pense, voilà,
c'est humain.
C'est humain, on est toujours dans cette... Ouais. Mais c'est déjà, voilà, c'est ce que je trouve intéressant, c'est déjà cette prise de conscience qu'on avait peut-être moins, où ouais. Finalement, ben voilà, c'était, on fonce le plus vite possible, il faut atteindre des objectifs, c'est ça, est-ce que...
Faut produire, faut du résultat.
Faut du résultat.
Il est quantifiable.
Et puis, est-ce que finalement, quelqu'un qui est un manager comme ça, c'est pas un poison pour toute son équipe, et qu'en fait, la valeur qu'il apporte peut-être sur un plan, en fait, il la détruit sur un autre. Ouais. Et que donc, on va avoir des coûts sociaux, on va avoir des problèmes, qu'après, il va se faire des ennemis à l'intérieur de son... Voilà, et qui devient toxique.
Ouais.
Et donc, il y a quelque chose de cet ordre-là, en se disant, bah, est-ce qu'il vaut mieux avoir... Il faut avoir des gens qui sont bons et qui performent, mais aussi... C'est important d'avoir des gens qui jouent cette carte, ouais. Et qui ont pas peur de dire bah OK, là j'y arrive pas ou cette partie-là ben j'ai besoin d'aide, toutes des choses qui semblent être vraiment faibles alors qu'elles sont finalement une reconnaissance de simplement sa limite, ouais. Et c'est bien pour ça qu'on est dans une organisation, c'est parce qu'on a des talents différents.
Bah, ouais.
Donc s'il y a des gens qui sont là pour tout à coup rattraper la balle, bah ils sont là parce que justement ils savent que on peut compter sur les autres, et puis c'est ça qui donne la force.
C'est la relation qu'il y a avec les autres. Le fait de mettre les gens aux bonnes places, aux bons endroits, pour pouvoir tous tirer dans le même sens.
Voilà.
Quoi.
C'est pas toujours évident, parce que bah des fois voilà ça marche pas, des fois on a des attentes, et puis bah, voilà, mais ça doit se...
Mais c'est humain. De toute façon, à partir du moment où on est deux, ça se complique, quoi. Vous parliez de courir tout à l'heure, enfin de délivrer, d'être sous pression juste là maintenant. Notre rapport au temps, je crois que vous êtes passionné par le temps.
Ah bah oui, j'ai eu un petit moment de ça, ouais.
Ouais. c'est quoi ce rapport au temps que vous avez?
Bah en fait c'est une histoire un peu parce que je pense que c'est venu pendant la période justement de confinement.
Ouais.
Parce que là on avait une situation un peu particulière où les distances étaient concentrées ou en tout cas limitées, mm-hmm. et le temps était dilaté.
Ouais.
Donc tout à coup cette question, alors qui est pas de moi, hein, elle est connue de la part des psychologues, des philosophes, ouais. etc. Mais juste j'ai revisité ça un peu moi-même parce que j'avais besoin de ça, je pense, d'aller ouais. creuser un peu cette partie, et donc vraiment de regarder aussi la symbolique qu'on a aujourd'hui dans notre société occidentale du temps. Et voilà, le temps qu'on connaît le plus, hein, moi, vous, tout le monde, ceux qui nous écoutent, c'est le dieu primordial du temps qu'on connaît, c'est Chronos. C'est le dieu du temps qui passe, il est représenté comme un vieillard avec des grandes ailes et puis une clepsydre. Ouais, faire assez peur, hein. C'est aussi Chronos, il dévore ses enfants, hein. Il est orienté dans un sens, on peut pas le changer.
Ouais.
Il a cette force inéluctable, il est très égalitaire pour tout le monde, ça passe pour tout le monde de la même manière. Mais c'est linéaire, inexorable, ça nous apporte sans s'arrêter, donc c'est un peu fondamentalement quelque chose qui nous questionne sur qu'est-ce qui se passe, quoi. Pendant qu'il passe, il est égal pour tous, on va se faire écraser, c'est un peu, peut être un peu lourd, hein. Donc c'est ça qu'on a retenu vraiment finalement beaucoup dans notre société, c'est le temps T, temps chronologique, on en parle, mais c'est aussi le temps de la physique, c'est juste, c'est quelque chose d'assez d'assez correct. Quoique, on verra que les physiciens et les scientifiques réfléchissent aussi à des concepts qui sont très différents de celui-là, Mais j'aime bien parce que j'écoute de temps en temps Étienne Klein qui parle de justement de qui nous dit est-ce que le passé existe quelque part pour interrogation ou mieux encore il nous dit le futur existe-t-il autant que le passé. Donc ça nous ramène à cette idée de future thinking etc. Donc et puis ces concepts justement on disait les scientifiques comme Einstein qui dit ben finalement on a cette théorie du temps bloc, c'est-à-dire que tout le temps a été et tout l'espace a été créé, tous les événements se sont intégralement déployés à un moment donné et que cette bobine de film est égrenée et c'est ça qu'on appelle le temps. Ouais. Et donc c'est très différent. Donc chronos on disait c'est celui qu'on utilise et c'est assez phénoménal parce que quand on y repense la plus grande révolution qu'on a eue, c'est pas forcément la révolution industrielle. C'est le fait que on ait une machine qui mesure le temps. Donc on a eu des horloges qui ont rythmé la journée.
Mon Dieu, c'est quand les horloges? Alors il y a le cadran solaire.
Voilà, l'homme là, on mesurait, on va dire encore avec des éléments qui étaient naturels, soleil. Ouais. Après, on est revenu sur des éléments physiques. Ouais. On se disait voilà, la clepsydre en Chine, il y avait des bâtonnets qui brûlaient pour faire tomber des billes. On peut aller au musée d'histoire des sciences, c'est assez intéressant ici à Genève. Il y a toute une salle sur justement la mesure du temps. Ouais. Ouais. Ah, et puis finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la Suisse. Là-dedans, on est bon. On invente cette idée de temps et de montre. Et donc, si on regarde la montre, elle va s'accrocher où? Sur le clocher, au milieu du village, parce qu'il rythme non seulement la vie, on va dire, religieuse, puisqu'il y a des prières qui sont données à des moments donnés, mais aussi l'évolution vers une société industrielle. C'est-à-dire qu'on commence le travail de manière synchronisée et que finalement, ça redimensionne complètement notre journée et ça standardise notre vie. On est en train d'avoir un temps pour ça, synchronisé, qui se détache de la nature, qui devient industriel et qui a besoin de finalement créer aussi des choses. Par exemple, la lumière artificielle. Bah pourquoi? Parce qu'il faut travailler quand il y a plus de lumière à l'extérieur. Donc si on doit travailler après, je sais pas, 18 heures et qu'il fait nuit, il nous faut créer aussi la bougie, etc., tout le reste. Ouais. Et il nous faut créer aussi quelque chose de plus fort, l'électricité, pour pouvoir faire cette production. Alors la partie qui est intéressante, c'est qu'il y a aussi une partie psychologique importante là-dedans. C'est que Chronos en fait est relié au centre de la réalité du sujet, c'est-à-dire à l'ego. On est dans un ego cartésien. Ouais. On dit je pense donc je suis. Je peux mesurer. Je crois qu'il y a d'autres philosophes comme Comte-Sponville qui dit que c'est moins ce que je suis que ce que je crois être. Donc on est tout à coup dans l'image que je projette aussi, et donc cette représentation fausse qu'a un individu par rapport à lui-même et sa vraie nature. Donc Chronos et l'ego, ils sont assez liés, je trouve. On fait référence vraiment à l'impression qu'il existe un centre, que c'est ça qui doit rythmer. Et donc là, c'est un peu une bascule. On a un objectif à atteindre. Si on l'atteint pas, on aimerait l'avoir et on souffre. Et si on l'atteint, on le désire plus, et donc du coup, on s'ennuie. Donc il y a un peu cette bascule entre les deux. Donc on relie un peu Chronos avec, pour moi, cette idée de mort, d'anxiété sur le futur, regret du passé, etc.
J'ai pas le temps, je vais pas avoir le temps.
J'ai pas le temps. Donc si on regarde, pour moi, c'est important d'ouvrir, par exemple, des outils comme nos calendriers, et se dire, mais en fait, tout notre calendrier, c'est du Chronos, quoi.
Ouais.
On n'a jamais parlé d'autre chose. Puis moi, j'ai appris ça la semaine, le seminier quand on est à l'école, les horaires, etc. Et puis on a grandi là-dedans depuis longtemps. Notre société est complètement bâtie là-dessus. Alors qu'il y a d'autres dieux du temps. Quand on revisite la mythologie, il y en a d'autres.
Alors moi, j'ai pas observé le temps comme ça, mais c'est très intéressant.
Il y en a d'autres des dieux du temps que les anciens Grecs, puisqu'on est dans une société qui est dont le berceau est vraiment. grecs et romains, c'est par exemple un dieu qui s'appelle Kairos. Hein. C'est peut-être oui. celui qu'on connaît le plus, le deuxième qu'on connaît le plus. Hein,
ouais, je pense en Chronos et lui. Ouais, ouais.
Voilà, et qui est dans les représentations aussi très fondamentales hein, chez les Grecs. Et il est représenté très différemment de Chronos. Hein. C'est un jeune homme. Il a les pieds ailés. Il porte en équilibre sur une balance sur le fil du rasoir une balance qu'il doit garder équilibrée. Puis il a cette particularité géniale, c'est qu'il a une mèche de cheveux longue. Il est rasé. Il a une mèche de cheveux longue sur le haut de sa tête. Et pourquoi il a ça? Parce qu'il se déplace très furtivement, très silencieusement. Et comme c'est le dieu de l'opportunité, du moment opportun, on a trois options. Il passe furtivement et soit on le voit pas, on le rate, soit on le voit, on fait rien, ouais. Et soit on le voit et on le saisit. On le saisit par sa touffe de cheveux. Et à ce moment-là, on a saisi cette opportunité. Donc, on a chopé le Kairos, quoi. C'est le moment de bascule décisif, hein. Ouais. Si Chronos, c'était le petit T, Kairos, c'est le grand T.
Là, c'est vraiment l'instant.
C'est le moment vécu, ouais, ouais, c'est ouais. le moment présent, ouais. c'est l'instant ressenti. Donc c'est cette dimension de profondeur qu'a pas le Chronos et c'est aussi le temps d'action hein, mais il peut être positif et négatif hein, c'est ça tolère pas d'hésitation, si on se trompe on s'est gouré et ça par exemple un chirurgien qui va opérer selon son moment, sa décision de couper ouais. à un moment donné, il peut faire basculer de la vie à la mort et il peut se tromper et il y a ce moment voilà. Et donc c'est aussi un moment intéressant pour la stratégie parce que c'est aussi dans cette réflexion qu'on a la stratégie. C'est pas que de la préparation, c'est aussi frapper au moment opportun. Hein. C'est pas la quantité de supériorité numérique qui compte. C'est est-ce qu'on a choisi le bon moment pour mettre un ennemi en défaite.
Ouais.
Donc on trouve ça dans pas mal de choses et en psychologie, c'est lié aussi à cette notion de synchronicité. Hein. Donc, est-ce qu'on reconnaît ces moments qui sont sans pareil, mais qui sont en lien direct parce qu'ils ont cette résonance? Et donc, ce Kairos, c'est vraiment lié à ce processus psychanalytique que je trouvais important. Et dans les cultures chrétiennes, on a aussi ça, voilà, avec l'arrivée du Christ, qui est un moment voilà, très marquant. Il y a toujours des moments très, très puissants. Donc, c'est un temps très qualitatif, très différent de Chronos, qui est...
Kairos est dans le moment... Enfin, pour le saisir, il faut être vraiment pleinement dans le moment présent et en pleine conscience, du coup. Et dans cette... extensibilité du temps en fait dans au moment où on se dit mais il y a 4 heures qui sont passées et j'ai l'impression que j'ai commencé il y a 5 minutes.
Ouais, c'est ça, on peut être tout à fait dans ce flow.
Ouais,
hein. C'est un peu le flow, ouais. L'idée de Mihaly Csikszentmihalyi. Je me suis entraîné.
Waouh.
parce qu'il est d'origine hongroise, américain, ouais. Malheureusement décédé il y a quelques années, mais oui, Chronos, il répond à une question particulière, c'est quelle heure est-il?
Ouais.
Et puis ça. Kairos, lui, il dit quel moment vivons-nous? Et donc c'est une autre question. Il répond pas à la même question. Ouais.
Et je pense que ouais, on bon, mais avec la pleine conscience, avec la méditation, avec toutes les questions que la société se pose maintenant, je pense qu'on redonne de l'importance à Kairos.
C'est pour ça, je pense qu'on c'est peut-être ça qui m'a fait aussi réfléchir, c'est qu'on était dans ces moments où
de
questionnement.
Il y a eu du temps court, quoi, de l'espace.
Ouais, il y a eu ce voyage qu'on pouvait plus faire à l'extérieur, donc il fallait le faire à l'intérieur.
Ouais.
Et puis il y avait ces moments particuliers. On devait attendre des points de bascule, des événements qui marquaient les choses. C'est très incertain, donc c'est très différent ouais, que ouais. le déroulement linéaire qu'on a l'habitude de faire.
Et puis maintenant qu'on a un peu repris, pas tout à fait comme avant, mais presque, plus ou moins, il est comment votre rapport au temps?
De toute façon, tous ces dieux-là, toutes ces notions-là se mélangent. Il y en a même une troisième, mais elle est aussi présente. C'est quelque chose qui est plus dans le temps long. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'en fait, voilà, à notre échelle, on perçoit peut-être Chronos et Kairos, mais on perçoit pas Aion, qui est un dieu encore plus primordial, pré-platonicien, et qui lui amène vraiment cette idée du cercle englobant. Et donc, qui est le temps long, c'est la précession de toutes les planètes, 26 000 ans. Et donc, déjà, les Grecs anciens le voyaient. On le retrouve dans le signe du zodiaque, on le retrouve dans le cycle des saisons, etc. Donc, on a des moments différents, hein, avec Chronos, qui est le temps de l'ego, le temps chronologique, qu'on doit respecter d'une manière ou d'une autre. On peut pas faire autrement, tellement...
Le soleil se couche tous les jours.
Voilà, puis le temps passe, et là, on peut rien y faire. C'est comme ça.
Ouais.
Mais on peut reconnaître Kairos, qui est le temps de l'âme, qui est ce temps plus qualitatif.
Ouais, c'est bien, c'est joli.
Et puis, il y a Aion, qui est le temps de ce soi, un peu cette individuation globale, hein, dont on se rend compte qu'on fait partie d'un tout plus grand, et qu'il y a un temps long qui n'est pas notre temps. Et donc
l'âme. Si on veut l'appeler comme ça.
Ou en tout cas cette connexion à quelque chose de plus grand.
Ouais.
Ça c'est aussi la partie, je trouve, qui ressortait pour moi dans le temps ionique, hein, qui dissout vraiment cette différence de ce qui nous arrive et ce que nous faisons arriver pour dire on fait partie d'une globalité. Et ça c'est un peu le message que moi je voyais un peu dans cette liaison qu'on a à travers aujourd'hui complètement Chronos. On repense, on revit des moments où effectivement Kairos vient s'invite, hein, et pas toujours comme on le souhaiterait, mais il est là. Et puis cette notion de comment est-ce qu'on est relié à soi-même, aux autres, à la nature, qui est un temps vraiment de Aion, qui est lui beaucoup plus, hein, si Chronos y compte ça en minutes et ensuite en jours et en mois et en années, Aion il va compter plutôt en cycle lunaire, en respiration, en battement de cœur, en cycle féminin, etc. Il y a une qualité
propre du vivant, de la nature, de l'univers, quoi,
et qu'on a beaucoup perdu.
C'est passionnant, Giorgio. Je pense que oui. Il faut que j'avienne à ma dernière question. Je pense qu'on pourrait parler pendant des heures. Si vous aviez, là maintenant, avec tout ce que vous avez fait en prospective, et toutes les connaissances que vous avez, si vous aviez une baguette magique, ou même juste simplement depuis votre cœur, quoi, enfin, vous aimeriez quoi pour le monde?
C'est une question, mais en fait, c'est intéressant parce que, ça, c'est un exercice qu'on a fait dans d'autres contextes, avec aussi des personnes à qui j'ai suivi des formations. C'est finalement, quelle que soit notre origine, quel que soit notre parcours, notre situation, notre vision. En fait, la vision du monde idéal, si on la demande à ces personnes qui sont très différentes, hein, sur la planète, on retrouve assez systématiquement les mêmes choses. On retrouve assez systématiquement un monde en paix, en harmonie, où on peut se développer, avoir cette qualité, on va dire, pas seulement de profiter de manière hédonique, mais aussi eudémonique, c'est-à-dire vraiment avoir comme ça des moments de plus longue satisfaction. Et puis le but, c'est de se libérer de la souffrance, c'est d'être pouvoir accepter ce qui ne peut pas être changé. Et donc si on demande ça, les personnes, en fait, quand on leur demande de dessiner vraiment leur monde utopique idéal, souvent, je sais pas après, mais on tourne autour de quand même pas mal de choses de cet ordre-là, plus de justice, plus de calme, etc. Et ça, pour moi, c'est très intéressant. Moi, ça me rappelle aussi, alors c'est ce que je souhaiterais, bien sûr, également. Je trouvais que c'était intéressant aussi de... Je me rappelle, il y a une étude, une des plus longues études chronologiques qui ont été faites sur le bien-être, le bonheur, qui a été faite par, peut-être vous la connaissez, à Harvard. Et c'est une étude qui a suivi des cohortes d'étudiants depuis 75 ans.
Ah, je crois bien que j'ai lu les résultats.
Ouais. Alors c'est 724 personnes qui ont été suivies, et bon, malheureusement que des hommes, hein, parce qu'à l'époque à Harvard, il y a 75 ans, il y avait que des hommes. Donc mais qu'est-ce qui compte, en fait? Ils ont fait un groupe témoin et un autre groupe, et ils ont demandé un petit peu quelles étaient les raisons pour lesquelles ils se considéraient plus ou moins heureux.
Ouais.
Et donc là, est-ce que c'est qu'ils étaient riches et qu'ils avaient réussi? Non. Est-ce que c'était qu'ils étaient célèbres, qu'ils avaient eu la gloire? Non plus. En fait, c'est la qualité des relations sociales qu'ils avaient avec les autres qui compte le plus. Alors, que ce soit avec leur conjoint, que ce soit avec des cercles d'amis, est-ce que ce soit avec leur communauté, mais cette qualité du lien qui nous relie aux autres est un aspect primordial pour aussi bien et mieux vivre. Donc, je nous souhaite aussi du plaisir à avoir cette qualité de lien.
Ouais, ouais. Je crois que, enfin, ces deux dernières années, elles nous ont montré justement que à quel point c'était important, quoi. Mmh. Merci beaucoup.
Ouais, avec plaisir, avec plaisir.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise. Car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.